Bien, je peux dire, si j'avais seulement un seul culte d'adoration avant d'aller au ciel dont je pouvais prendre part, je pense que je viens de l'avoir. Je n'ai rien changé. Je remercie le Seigneur pour la beauté de la musique que nous avons entendue par l'orchestre, par la beauté des voix, John Martin, Philip Webb, Corey Welsh. Et d'entendre toutes les voix de l'assemblée et ma propre voix, d'élever nos voix ensemble et de chanter ensemble pour le Seigneur. Ces cantiques que nous avons chantés, ce qui a été choisi, la manière dont ça a été joué, nous a vraiment menés avec la lecture du psaume 19 et avec une prière pastorale qui s'en suivit. Chaque moment de cette soirée a été béni de Dieu. Nous sommes vraiment bénis de Dieu ce soir de nous trouver ici à l'église de Grace Community, de faire partie de cette conférence. J'aimerais dire merci à Corey Welsh pour cette chanson, ce solo sur le psaume 23. Je suis vraiment humble de voir que Dieu a permis que tous mes enfants, mes trois garçons et ma fille, on peut finir le master's collège, l'université de masters. Mes trois fils, Andrew, James et John, qui est le même nom que les apôtres, et ma fille, Pierre, non, je plaisante bien sûr, qui ont pu aller au master's collège. Lorsqu'elle a gradué, lorsqu'elle a fini le premier travail qu'elle a eu, le premier travail qu'elle a jamais eu dans sa vie, fut de travailler pour Corey Welsh. Et quelle belle expérience pour elle. Et elle est super contente de son boss avec Corey Welsh. Et maintenant, je peux dire ça avec certitude, puisque maintenant elle travaille pour moi. Mais ce soir, nous allons concentrer dans une étude, notre étude historique et théologique, une vue d'ensemble, d'une vue critique, une question critique qui se relie avec tout ce qu'on a discuté dans cette conférence et le sujet qu'on m'a demandé d'adresser. Je suis vraiment heureux de pouvoir faire ça ce soir. C'est le dévouement des puritains pour la sola scriptura. Suite à la réformation du XVIe siècle, il y a un son de trompette qui ralliait tous les cœurs du peuple de Dieu. C'était un appel clair, appelé le sola scriptura, qui veut dire en latin les Écritures seules. Et ça servit à la fondation pour quatre autres solas: sola gratia, sola fide, sola Christus et soli Deo Gloria. Et ces quatre solas ensemble sont une affirmation de vérité, une déclaration de vérité de l'Évangile qui sauve de Jésus-Christ. Pensez de cette matière. Un temps magnifique, ancien, une fondation sur laquelle tout se repose, c'est sola scriptura. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous obéissons, tout ce que nous embrasons, tout ce qui nous donne des convictions dans les âmes est basé sur cette fondation forte de sola scriptura. Rome disait, on accepte les Écritures, mais c'est les Écritures et les traditions de l'Église et la hiérarchie ecclésiastique et le conseil de l'Église, les Écritures et l'autorité papiste. Et lors de la Réforme, les réformateurs disaient non, c'est sola scriptura, les Écritures seules. S'il y a une seule chose, d'ajouter quoi que ce soit aux fondations de l'Église, c'est seulement des cracks, des fissures dans la fondation. ça ne peut pas être quelque chose d'ajouté à la prédication de l'évangile de Christ. En même temps qu'ils disaient non aux anabaptistes ou libertins, qu'ils avaient des nouvelles révélations, des rêves et des révélations prophétiques, et les réformateurs dirent non. C'est les Écritures seules. Sur cette fondation se trouvent trois piliers massifs qui encadrent l'évangile et supportent, soutiennent l'évangile de manière basique dans sa proposition de base, sola gratia, sola fide, solus Christus. Le salut, c'est par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Rome voulait ajouter les bonnes œuvres et d'être membre dans une église, et le mariage, et les sacrements, les indulgences, et Marie, et les trésors de mérite, etc., etc. Et en reculant leur camion, en essayant de remplir toutes sortes de choses à l'intérieur avec des poubelles. Et les réformateurs, les réformeurs, voulaient revenir à la scripture, aux écritures seules, que le salut est seulement par l'évangile, par la grâce, par la foi, en Christ seul. Et lorsque ces choses sont en place, lorsque sa fondation est en place, lorsque ces trois piliers immuvables sont en place, alors le plafond qui s'élève et qui peut porter cette écriture sola Deo Gloria, pour la gloire de Dieu seul. Ça, c'est la réformation en résumé. C'est le concentré ultime de tout ce qu'on voit dans la réforme. Tout est soutenu sur le fondement des écritures. Et les piliers se tiennent comme mur de protection. Il n'y a rien d'autre qui peut augmenter, qui peut s'ajouter à cette fondation pure des Écritures seules. Et suite à la réforme, ceux qui continuèrent à embraser ce mouvement furent les puritains, qui a commencé dans l'âge du XVIe siècle, lorsque la reine Élisabeth I prit le trône d'Angleterre, après avoir révoqué Bloody Mary, qui était Marie sanguinaire, ayant persécuté tant de protestants. John Rogers, qui fut brûlé par Marie Sanguinaire en 1553, reste, son image reste en première page de ma Bible. Et puis suite à cela, vint un nouveau mouvement, après ces persécutions, le mouvement des puritains qui voulaient purifier dans l'église anglicane en Angleterre et amener l'église à la purité, sur la fondation de sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus et soli Deo Gloria. Ce fut ces puritains qui furent utilisés avec puissance par Dieu, et peu de mouvements dans l'histoire ont été ont eu des personnes aussi centrées sur les Écritures que les puritains. Ce soir, j'aimerais qu'on regarde à leur dévouement envers sola scriptura. J'aimerais garder les choses simples, avoir trois points principaux pour défendre sola scriptura. Premièrement, c'est que c'est défini par les Écritures. Deuxièmement, ça a été mis en question par les Quakers et finalement défendu par John Owen. Ce que nous allons regarder ce soir. Et premièrement, On va regarder sola scriptura, définie par le credo Westminster. Et des affirmations les plus claires de fidélité envers la parole de Dieu dans sa place dans l'histoire. Et bien sûr, on parle de l'histoire de l'Église, donc pas forcément en parlant uniquement des Écritures. Mais on va regarder ce qu'on voit dans la Bible, premièrement, de ce qui parle de sola scriptura dans la Bible, et puis nous allons continuer avec la confession de Westminster. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même ? En 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée par Dieu, et chaque trait, chaque chapitre, chaque verset, chaque livre dans le canon des Écritures a été inspiré de Dieu, provient de Dieu, vient de la bouche de Dieu. Ce ne sont pas les auteurs qui étaient inspirés, c'est les Écritures qui sont inspirées. Les auteurs étaient les instruments dans la main de Dieu pour écrire ce que Dieu voulait qu'ils écrivent, utilisant leur propre tempérament, leur propre personnalité, leur vocabulaire et leur propre arrière-plan et expérience, pour qu'ils écrivent exactement ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Jésus dit en Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui provient de la bouche de Dieu. » Chaque parole des Écritures vient de la bouche de Dieu. La révélation divine de la Bible vient de Dieu, des cieux. Hébreux 4, verset 12, on connaît, la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce livre est vivant. Ce livre a la vie de Dieu en lui. C'est le soupir de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. En Jean 6, 63, Jésus a dit, la parole que je vous donnais est esprit et vie. Non seulement l'inspiration des Écritures envoie, mais que l'écriture est aussi sans erreur. On voit ça que c'est inclus dans le sola scriptura, parce que puisque la Bible est inspirée, que c'est la parole de Dieu, et puisque Dieu est saint, Dieu ne peut mentir. Dieu est vérité, chaque parole de Dieu est vérité. On voit ça en Tite 1-2, Dieu ne peut mentir. Y a-t-il des choses que Dieu ne peut pas faire ? Oui, Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas se renier, Dieu ne peut mentir. Hébreux 6, 18 dit que c'est impossible pour Dieu de mentir. Jésus priait en Jean 17, 17, sanctifié par la vérité. Proverbe 35, chaque parole de Dieu est éprouvée. C'est pour ça que nous soutenons avec les puritains, alors que nous allons voir dans un moment, le fait que la Bible soit sans erreur, que Dieu soit trouvé juste et vrai, que tout homme soit trouvé un menteur. Tout ce qu'on voit dans les Écritures vient et est exaucé. Les paroles de Dieu ne peuvent faillir. En Ésaïe 40, verset 8, on voit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. En Matthieu 5, 18, en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus disait, les paroles, la parole ne peut être brisée. En Jean 10, 35, sur l'autorité des Écritures, puisque la parole est inspirée, sans faille, sans erreur, elle vient avec l'autorité de Dieu lui-même. Lorsque la Bible parle, Dieu parle. Lorsque Dieu parle, il parle avec une autorité souveraine dans sa parole. Psaume 19, verset 7, on l'a lu plus tôt. La loi de l'Éternel est parfaite. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option de l'Éternel. Ce n'est pas les considérations de l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel. C'est quelque chose qui lie la conscience de l'homme et la vie. Et le verset 8, les commandements de l'Éternel sont purs. Ce sont les commandements de pur pour chaque homme, pour chaque femme. C'est pour ça que Paul dit en 1 Thessaloniciens 4:15, c'est pour cela que nous vous disons par la parole de Dieu. Cinquièmement, la parole est claire. Sola scriptura veut dire que la parole de Dieu est claire, est compréhensible, elle est lucide. C'est une révélation qui est claire. Matthieu 22, verset 31, Dieu dit aux pharisiens concernant la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu? Est-ce que vous avez deux yeux? Est-ce que vous avez au moins deux cellules dans votre cerveau qui marchent, qui sont connectées? Vous ne pouvez pas comprendre l'information, la révélation claire de la parole de Dieu? En Matthieu 19, 4, il dit, n'avez-vous pas lu qui crée l'homme et la femme? Non, Dieu a parlé tellement clairement dans sa parole que aucun homme ne peut donner une excuse qui ne peut pas comprendre ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas bégayé dans sa parole. Dieu a parlé avec précision. Et c'est un message compréhensible. Nous avons besoin d'être éclairés, bien sûr. Mais le manque de compréhension ne vient pas d'un problème des Écritures, mais d'un problème de l'homme. Ce que Dieu a dit, il a dit avec une clarté abondante. Et ce qui était différent avec Rome, c'est que Rome disait que les hommes, au pupitre, non, les hommes qui écoutent dans l'assemblée ne peuvent comprendre. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas traduire la langue dans leur langue, c'est pour ça qu'ils prêchaient en latin, c'est pour ça qu'ils pensaient devoir dire aux gens ce qu'ils devaient croire parce qu'ils pensaient être incapables de comprendre la Bible. Et les puritains, les réformateurs ont dit non. Ceux qui récoltent dans la moisson de la parole connaîtront plus la parole que le pape. La parole est claire dans toute matière qui parle de salut et de vie pieuse. Sixièmement, sola scriptura parle la suffisance des Écritures. Que la parole de Dieu est capable d'accomplir tous les plans de Dieu sur cette terre. Lorsque la parole de Dieu est amenée et confrontée à l'homme. En Ésaïe, on voit que la parole qui vient de Dieu ne revient pas vide sans accomplir son but. Les buts de Dieu de rédemption sont accomplis par sa parole, ce qui est suffisant. Car la parole est suffisante pour accomplir ce que Dieu veut pour ce monde. La parole de Dieu est assez puissante pour convaincre, pour convertir, pour conformer, pour consoler, puissante pour corriger, puissante plus que tout objet que nous puissions tenir dans nos mains dans ce monde. Pierre a dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Il y a tellement de vie dans ce livre que lorsque ce livre est planté dans la terre du cœur humain et arrosé par le Saint-Esprit, lorsque Dieu, dans sa grâce souveraine, appelle à cette semence à germer, cette semence amène la vie éternelle. Dans ce livre, seul, c'est celui qui sanctifie, qui conforme les chrétiens et les croyants à l'image même de Jésus-Christ. Septièmement, cela scriptura implique l'immutabilité, l'immuabilité, que ça ne change jamais. Psaume 119, verset 89, pour toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ce qui est vrai sera toujours vrai, ce qui est faux sera toujours faux. Le plan de Dieu pour le salut sera toujours le même. La révélation de Dieu changera jamais parce que Dieu lui-même est immuable et ne change pas. Cela scriptura implique aussi l'invincibilité des Écritures, que c'est une arme supérieure dans les mains de l'homme ou de la femme de Dieu lorsque c'est utilisé en soumission à Dieu, comme on voit en Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. » C'est une épée, une arme pénétrante, la parole de Dieu, une arme invincible. Et finalement, cela scriptura implique la finalité des Écritures, qu'il n'y a aucune nouvelle révélation à donner à l'homme après la fin du canon, et que la foi que nous avons, qui a été donnée, comme Jude le dit, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et en Apocalypse 22:18, si je déclare quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Toutes ces vérités sont vraies. Et on voit le sola scriptura dans la Bible, défendu dans la Bible. Ce qui est important dans cette conférence et pour la compréhension de la Bible, c'est cet élément de la finalité de la révélation divine dans la parole écrite de Dieu. Dieu a envoyé la consommation de son message dans sa parole, comme les puritains l'ont écrit en 1643, appelés par le Parlement anglais. Ils ont été appelés à écrire ce qui a été la profession de foi qui gouvernerait le pays. Et en 1646, ils ont complété leur première ébauche, la ratification de la confession de Westminster, confession de foi. Il y avait 121 académiciens et théologiens et pasteurs et enseignants et 30 leaders de l'Église ayant plus de 130 sessions. Et lorsqu'ils écrirent cette confession de foi, le plus long et le plus court catéchisme, et commencer avec chapitre 1. Et ça s'appelle « Sur les Saintes Écritures ». Leur doctrine, leur profession de foi deviendra de plus en plus définie par les années. Et plus de défis venaient affronter l'Église. Il continue à être de plus en plus explicite et défini dans ce qu'il croyait des Écritures. C'est une profession de foi dans son premier chapitre qui a subsisté le test du temps. Et simplement répète ce que la Bible affirme sur elle-même. Et j'aimerais qu'on voyage ensemble, qu'on marche ensemble, pour voir à quel point les puritains étaient dévoués à cela scriptura. On va voir cette phrase et cette affirmation qu'on va mettre sur l'écran. Et je les ai étudiés et je les ai raccourcis et simplifiés pour que ce soit plus facile pour nous de comprendre. Bien sûr, ces paragraphes et ces phrases sont beaucoup plus longues dans le catéchisme de Westminster, mais c'est pour notre compréhension avec une vue globale. Qu'est-ce qui était dans l'esprit puritain lorsqu'ils ont voulu défendre sola scriptura? Ce que je veux que vous sachiez, c'est que dans le premier chapitre, dans la première section, il parle avec une affirmation sur la cessation de toute nouvelle révélation. Ils étaient dévoués et consacrés à la Bible seule. La première section du premier chapitre, ils ont vu nécessaire pour la préservation et la distribution de la vérité, que c'était nécessaire par le Saint-Esprit que la Bible devait être écrite pour que le message puisse préserver, avec une affirmation uniforme. Ainsi, la Bible fut écrite, mais continue en disant, à la fin de cette section, les manières avec lesquelles Dieu révéla sa volonté au départ envers son peuple ont maintenant cessé. Et ça, c'est le début de la confession de Westminster. Il n'y a pas de place pour rajouter quoi que ce soit. Il divise dès le début dans cette assemblée, sa grande génération unique dans le Royaume-Uni, et il commence avec une affirmation cessationniste. Dans la deuxième section, il parle de l'inspiration et de l'autorité des Écritures. Troisièmement, il parle que toutes les Écritures sont données par l'inspiration de Dieu. Pas par l'inspiration de l'homme, mais l'inspiration de Dieu, pas de l'homme. 100% pure inspiration de l'Esprit de Dieu révélé à l'homme. Et il conclut que cette Écriture est la règle de vie avec l'autorité sur toutes nos vies pour diriger et gouverner nos vies, pour nous dire comment vivre, quelque chose que nous nous soumettons avec joie. Dans la troisième section, il dit faire attention de dire que les apocryphes ne faisaient pas partie du canon. Ils disent que les livres appelés apocryphes ne font pas partie du canon des Écritures. Ils reconnurent que ce canon des Écritures avait des limites, était limité des 66 livres, avec les 39 de l'Ancien Testament, les 27 du Nouveau. La quatrième section dit « L'autorité des Saintes Écritures doit être crue et avec obéissance. » Cette écriture, c'est celle qui a l'autorité sur la vie des croyants. Dans la section 6, on lit sur la suffisance des Écritures. Tout ce que Dieu nous a donné, sur tout ce qui est nécessaire pour sa gloire, le salut de l'homme, la foi, la vie, se trouve dans les Écritures. On n'a pas besoin de regarder ailleurs. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'avoir un appendice à la fin pour ajouter à la révélation divine, à la parole écrite de Dieu. Ils affirmaient les paroles que je vous ai déjà lues, que toutes les choses nécessaires pour le salut, la sanctification, pour la gloire de Dieu se trouvent dans notre Bible. C'est un point très important. À la fin de cette présentation, John Owen sera celui qui viendra pour défendre la menace des Quakers avec un cas battu sur l'Évangile en disant loin de nous ces visions, loin de nous ces nouvelles révélations, car nous avons la parole. Dans cette sixième section, mais aussi une autre affirmation cessationniste, il dit rien. Vous savez ce que rien signifie ? Il n'y a rien au travers du temps. Vous savez ce que ça veut dire au travers du temps ? Ne doit être ajouté, que ce soit par de nouvelles révélations de l'esprit ou des traditions d'hommes. N'amenez pas vos « ainsi parle le Seigneur » si ce n'est pas trouvé dans un chapitre et un verset. Et je sais que c'est une réflexion de votre cœur et de votre consécration de Dieu que vous applaudissez. Section 7 et 9 parlent de la clarté des Écritures, à quel point ce livre est lucide. Les choses qui sont nécessaires à être connues, section 7, crues et observées pour le salut, sont dictées clairement et ouvertes à un endroit ou à un autre des Écritures. Tout ce que nous devons connaître, qui doit être dit, est dit clairement dans la Bible. Tout ce que vous devez savoir pour suivre la volonté de Dieu est affirmé dans ce livre. Tout ce que vous devez savoir pour vivre d'une manière à amener gloire à Dieu est épelé avec une clarté de cristal dans ce livre. Écouter ce livre n'est pas difficile à écouter, c'est juste difficile à avaler. Il y a quoi de dans la foi seule, en Christ seul? Comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? Même un enfant peut venir à la foi en Jésus-Christ. Mais il continue dans la même section. Non seulement les gens éduqués, mais ceux même sans éducation peuvent atteindre une compréhension suffisante de ces Écritures. S'il y a un voile, ce n'est pas sur les Écritures, c'est sur nos esprits brouillés. Section 9, en continuant avec ces clartés, c'est que les Écritures se défendent. Les Écritures interprètent les Écritures. S'il y a un passage qui manque de clarté dans un passage, un autre passage éclaire l'autre passage. Parce que la Bible ne se contredit pas, ça parle avec une seule voix. Thomas Watson, mon puritain préféré peut-être, a dit « Seulement un diamant peut couper un diamant. » Ainsi, l'Écriture interprète l'Écriture. Et finalement, 10, un sommaire, on voit que le juge suprême de toute controverse doit être déterminé, examiné par personne d'autre que le Saint-Esprit parlant au travers des Écritures. Non en parlant dans des nouvelles révélations ou dans des rêves et des visions ou dans des langues, mais dans les Écritures seules. Et la parole de Dieu sera l'arbitre final de toute matière et de controverse dans l'Église. Ça, c'était le dévouement, la consécration des puritains en 1646, lorsqu'ils écrirent ce document extraordinaire. Après se rencontrer plus de 1100 fois en 3 ans, ils prirent appui sur la parole de Dieu. La parole, la Bible, l'Église fut toujours la plus forte lorsqu'elle s'appuie sur la parole. On voit ça dans l'histoire. Lorsque l'Église se tient ferme sur la Scriptura, C'est là où l'Église est forte. Et lorsque l'Église s'éloigne de cette fondation, c'est cette pente humide et mouillée qui pousse les gens vers l'œcuménisme et le libéralisme et tous ces mouvements qui mènent ultimement vers l'athéisme. Mais au sommet se trouve sola scriptura. Toute dénomination qui s'éloigne. Toute faculté théologique qui change de fondation se détourne. Toute église, toute dénomination qui est forte dans la grâce de Dieu est forte dans son ancre, dans le sola scriptura. Ce n'est pas quelque chose de négociable. On n'est pas seulement dogmatique. On est bulldogmatique. La parole de Dieu n'est pas pour un débat. Deuxièmement, non seulement sola scriptura est définie par la confession Westminster, mais deuxièmement, tristement, fut aussi ignorée par les Quakers. Lorsque Dieu ouvre les portes des cieux pour bénir son peuple, Satan ouvre les portes de l'enfer pour attaquer. Lorsque Dieu fait son travail le plus beau, le plus grand, vous pouvez être sûr que le diable est juste là à côté pour contre-attaquer avec des fausses religions. Et alors que les puritains se rencontraient à Westminster, dans les années 1640, dans la même époque, exactement la même époque, de l'autre côté de la ville, le diable faisait son œuvre. Et en même temps, se leva dans les années 1640 un groupe qui sera connu comme les Quakers, une secte radicale qui sera aussi connue comme la religion, la société religieuse d'amis, réclamant, recevant de nouvelles révélations et des prophéties. Et avec ça, ils se dirigeaient dans le mysticisme et l'hyper-émotionnaliste, une pratique des émotions poussées, dirigée par Josh Fox. Ils s'organisèrent et eut leur première réunion en 1652. Et au cœur de cette théologie de Quakers était ce message qu'une personne peut être sauvée sans les Écritures. Qu'il y a une lumière intérieure dans chaque homme et que cette révélation intérieure peut rendre le salut possible pour toute l'humanité. Ils appellent ça la lumière intérieure, l'habitation de l'esprit, réclamant que l'esprit était dans les non-croyants. Et alors qu'ils s'assemblèrent en tant que non-croyants, réclamant qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Et pour aller dans un service, dans un culte des Quakers, il n'y avait aucun pasteur. Il n'y avait pas aucun pasteur avec une Bible pour expliquer la parole de Dieu. Ils s'assoyaient dans un bâtiment comme le nôtre. Ils étaient encouragés de méditer. Et lorsque les gens se sentaient libres, ils pouvaient se lever et parler. Et donner des directions pour les vies de tous. Les femmes étaient encourageantes de se lever et de prêcher aux hommes. Et de cette consécration, être ouvert, d'être ouvert et sans caution à la révélation continuelle de Dieu et de ses expériences mystiques et de choses bizarres. Une des choses qu'ils pratiquaient, c'était comme signe de marcher nu, comme signe de jugement. Dans l'année 1646, de 554 de femmes vinrent au campus d'Oxford prêchant au corps d'étudiants pour les avertir des maux de l'étude et d'accuser l'étude des écritures et les études académiques, essayant de persuader aux gens que tout ce qu'ils avaient besoin, c'était la lumière intérieure donnée par l'esprit, qu'ils n'avaient pas besoin de la bibliothèque, ils n'avaient pas besoin des professeurs et des classes, que Dieu allait leur parler intérieurement dans leur esprit. Et ce message ne fut pas écouté. Mais une de ces femmes se déshabilla, marcha à Oxford à minuit, affirmant que c'était un signe de jugement envers ces étudiants hypocrites. Quel comportement bizarre, clairement, qui montre l'erreur de ce mouvement d'exalter ce qu'ils pensaient être le Saint-Esprit, mais de s'éloigner dans des pratiques illogiques, irrationnelles et bizarres. Qu'est-ce qui est plus bizarre que de courir à minuit? Leurs actions. Qu'est-ce qui est pire? C'est ce qu'on voit de nos jours dans le mouvement charismatique. Ce qu'on a vu aujourd'hui, lors de la session de questions et de réponses dans ces vidéos, c'est juste encore plus bizarre que ces femmes à minuit. Marilyn Hinckley, qui est télévangéliste à TBN, qui est orateur dans le ministère charismatique, biblique, qui est une contradiction. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est la citation. Commencez à le créer. Parlez-y. Parlez-y pour que ça se crée. Parlez à votre portefeuille. Toi, portefeuille rempli d'argent. Je peux vous donner la référence si vous voulez. Parlez à votre chéquier. Toi, chéquier, toi. Ça, c'est pire que d'être nu. Toi, chéquier, toi. Tu n'as jamais été aussi riche depuis que je te possède. Tu es rempli d'argent, n'est-ce pas? Et on continue avec Kenneth Copeland. On parle de bizarre. Il dit, vous n'avez pas un Dieu en vous. Vous êtes un Dieu. Ne soyez pas... ne soyez pas confus lorsque les gens vous accusent de penser que vous êtes Dieu. Priez à vous-même. Et encore une fois, vous avez la même créativité de foi et l'habilité en vous que Dieu avait lorsqu'il créait la terre. C'est un monde de fantaisie. Il dit aussi, Kenneth Copeland, Dieu est un être qui mesure entre 6 pieds 2 et 6 pieds 3. 1m80 peut-être. C'est pas une vue très haute de Dieu. Il dit aussi, je prêche pas la doctrine, je prêche la foi. On n'avance pas vraiment avec celui-là. Je ne prêche pas la doctrine, je prêche la foi. Il dit, oui, foi en toi-même et foi dans le diable. Kenneth Hagin dit, le croyant est autant une incarnation que Jésus-Christ le fut. Fred Price, dans sa vie, dit, roule dans une Rolls-Royce de foi. Et Benny Hinn. Êtes-vous prêt pour cette vraie révélation de connaissance? Vous êtes Dieu. chrétiens. Les chrétiens sont des petits messies. Les chrétiens sont des petits dieux. Jamais, jamais, jamais venez à Dieu en lui disant que ta volonté soit faite. Ou si c'est ta volonté. Nous, chrétiens, avons la puissance dans nos bouches de guérir ou de tuer comme les sorcières le possèdent. Il dit, nous sommes des petits messies, tout ce que Jésus fut. Je vous dis, on prend un pas en dehors de sola scriptura, on prend un pas hors de cette fondation, et on s'assoit sur une peau de banane. Et c'est inévitable que tu tombes et tombes et tombes jusqu'au bas de la falaise. C'était ce que ce mouvement Quaker était. Et c'est pour ça qu'on les appelait les Quakers. Parce que tout leur culte, les Quakers, c'est de trembler. Et ils étaient appelés ceux qui tremblent. Ce qui nous mène à notre troisième point. Sola Scriptura qui est défendu par John Owen. Ce n'était pas une coïncidence que sur ce même campus, à l'université d'Oxford, en tant que vice-chancelier d'Oxford, que Dieu avait, que Cromwell avait mis au-dessus de toute l'académie d'Oxford, le grand intellect, le génie intellectuel, John Owen, Dieu l'avait mis là pour une raison. Et si quelqu'un pouvait dissecter la théologie Quaker, c'était le grand puritain John Owen. C'est John Owen qui est devenu le chapelain personnel d'Oliver Cromwell. C'est lui qui prêchait au Parlement. C'est lui qu'après le jour après la décapitation de Charles Ier, qu'il adressa le Parlement. Cet homme brillant, et c'est tous ses écrits théologiques font plus de 23 volumes. Il se donna pour combattre ce mouvement charismatique, émotionnel et ce départ de sola scriptura. Et John Owen affirmera l'affirmation plus profonde qui était vraiment le sola scriptura, adressant cette question de sola scriptura. En 1659, qui répondit à cette attaque des Quakers, une de ses œuvres les plus importantes, une défense des saintes écritures contre les fanatiques. En 4 chapitres. J'aimerais qu'on regarde le chapitre 3. Le titre est « Sur la perfection des écritures ». Et John Owen fait sa défense contre la lunatie, les excès de ces gens basés sur la fondation de la perfection des Écritures. Jean Calvin, un siècle plus tôt, comme on l'a vu hier, avait dressé la même question contre les libertins et les anabaptistes avec une défense théologique précise en mettant, en reliant la parole et le Saint-Esprit, disant que les miracles accompagnaient les apôtres à cause de la nouvelle relation. Et pour John Owen, de se tenir ferme, c'était avec une défense un peu différente. Il décida d'argumenter la perfection de la parole de Dieu écrite de la Genèse à l'Apocalypse, que cette église, Cette Bible a tout ce que chaque croyant aura toujours besoin pour leur vie spirituelle. Et que cette révélation de Dieu, toute la révélation est déjà dans la Bible, qui n'a rien à ajouter, c'est parfait en tant que tel. Et quiconque veut ajouter à cette écriture attaque les écritures. Et John Owen commence sa défense avec cette affirmation. Et encore une fois, j'essaie de les résumer, de les rendre un peu plus accessibles. Ce sont des paragraphes lourds et riches. Et j'essaie de le distiller en quelque sorte, de le rendre un peu plus simple. Et l'écrit, les écritures sont l'établissement, c'est inchangeable, c'est éternel, sont ordinaires. Donc les moyens de grâce ordinaires et pas extraordinaires, parfaits, il n'y a rien qui y manque, et infaillibles. C'est la loi de Dieu ordinaire, parfaite, qui ne bouge pas pour chaque chrétien. Pour l'adoration divine, parce que John MacArthur a expliqué, c'est notre devoir le plus ultime devant Dieu. Il continue la citation, cela ne laisse pas de place, et vous comprenez ce que ça veut dire. Pas de place pour de nouvelles révélations. Si vous cherchez ces expériences charismatiques, ces nouvelles révélations, c'est parce que vous n'avez pas compris la perfection de la parole de Dieu. John Owen continue en disant que l'utilisation pratique des écritures, ce qui veut dire quel bien ça nous apporte, et si les gens incomplets eux-mêmes pensaient devoir compléter l'écriture, Ça montre que c'est pas parfait, même si ça réclame d'être parfait, et même si ça réclame d'être parfait et d'être suffisant. Et alors John Owen fait une liste de 7 paragraphes, et je les ai réduits. Et dans ce traité, il fait une défense des Écritures contre les fanatiques. Numéro 1, Dieu a révélé dans la Bible tout ce qu'on a besoin pour le salut et qui nous équipe pour l'adorer. C'est la suffisance des Écritures. Tout ce que nous avons besoin sous le ministère du Saint-Esprit se trouve dans la Bible pour nous mener à Christ, pour nous mener à une vie pieuse et pour nous mener au ciel. Deuxièmement, sur la clarté des Écritures, tout cela a été révélé dans les livres de la Bible directement ou indirectement. Que ce soit implicite ou explicite, c'est dans les Écritures. Et c'est fait dans la Bible de manière claire. Dieu sait comment communiquer. Dieu peut communiquer mieux que n'importe qui dans cette salle. Et ce que Dieu a donné dans sa parole est clair. Et pour ce qui concerne le salut et la sainteté, il sait comment être clair. Troisièmement, il n'y a absolument aucune place pour les nouvelles révélations. C'est la conclusion du livre de l'Apocalypse. Comme on l'a lu plus tôt, au chapitre 22, verset 18, que si quelqu'un ajoute à cette révélation les fléaux décrits dans ce livre, s'appliqueront à lui. Il n'y a pas d'autre révélation pour notre salut et pour un culte raisonnable donné à Dieu. Quatrièmement, il dit, c'est un suprême orgueil, une arrogance pour des men, pour des hommes, de proposer des nouveautés pour la foi, des choses qui n'ont pas été révélées par Dieu dans sa parole. C'est le reflet de l'orgueil et de l'arrogance de penser qu'on a besoin d'une révélation privée de Dieu parce qu'on est meilleur que tous ceux du monde qui doivent opérer par la Bible seule. Et vous êtes tellement spécial que Dieu doit vous donner une révélation privée, mystique, juste pour vous. À quel point peut-on être orgueilleux et centré sur soi-même? Ce que Dieu a donné à tout le monde, c'est ce qu'il te donne à toi. Cinquièmement, des enseignements des fanatiques. Et parle de ces nouvelles révélations, des excès hyper émotionnels. Puisque ces enseignements fanatiques contiennent des matières qui sont contraires aux Écritures, ils doivent être rejetés comme diaboliques, inutiles, sans fondation. Et fausse. Ça vient du diable. Et vous n'avez pas besoin de ce qui vend. Sixièmement, cette lumière interne, supposée lumière intuitive, subjective, ce message du Saint-Esprit en nous qui ne vient pas de la parole. Owen dit, divertit l'attention loin de la perfection de la Bible. Ça attire les gens loin de la Bible, dans un monde de fantaisie. Et ça enlève les gens de la place où ils doivent être, appuyés sur la parole, et ça amène les gens loin de ce qui est de Dieu vers ce qui est inutile et faux. Septièmement, la Bible est une règle complète et parfaite. Depuis la complétion, depuis que le canon des Écritures fut fini, il n'y a aucune nouvelle révélation qui doit être attendue ou admise. Aucune nouvelle révélation ne doit être acceptée. Il ajoute, si les Écritures sont parfaites et complètes, et elles le sont, si les Écritures sont parfaites et complètes, alors quel besoin avons-nous pour de nouvelles révélations et un enthousiasme incontrôlé? C'est une question rhétorique et on connaît la réponse. C'est une question rhétorique, on n'a pas besoin de la répondre. La réponse est zéro, on n'en a pas besoin. Et finalement, toutes ces choses qui réfèrent aux abus des Quakers, de cette lumière intérieure, de nouvelles révélations mystiques, intuitives et subjectives, des impulses, ces choses sont incertaines, dangereuses, inutiles et complètement contingentes, sans nécessité, doivent être rejetées. Un homme que j'ai lu, qui a écrit la préface de cette défense des Saintes Écritures contre les fanatiques, Stephen Westcott, a dit « John Owen s'il devait voir la scène de l'Église de nos jours, s'il devait voir les désirs de l'Église, les convoitises pour la nouvelle génération, il reviendrait à la cause, à la racine de toutes ces choses. C'est les gens qui ont besoin d'être persuadés de la perfection de la parole de Dieu. En 1662, c'est l'année où se passa quelque chose d'aberrant dans l'Église, 2 ans après que Charles II remit en place la monarchie en Angleterre, alors que les puritains cherchaient à répandre leur influence de sola scriptura. Le Parlement anglais passa l'acte de l'unité que tout pasteur et tout prédicateur devait signer un livre de prière commun et un livre de croyance commun. Les puritains ne pouvaient pas, dans leur bonne conscience, s'y soumettre. Cette année, un des jours les plus sombres de l'histoire de l'Église, plus de 2000 pasteurs des puritains furent rejetés de leur pupitre et furent forcés de quitter leur Église, de quitter leur ministère, de quitter leur prédication. Et 2 ans plus tard, un autre acte fut passé par le Parlement, rejetant ces prédicateurs de prêcher même en privé ou dans et plus tard ces prédicateurs furent même refusés à venir à près de 5000 ou 7 kilomètres des villes, et lorsque le temps venait pour eux de mourir, même leur corps ne pouvait être enterré dans les villes, dans les limites des villes, ou dans les cimetières des églises. C'est connu comme le grand rejet. Quand je vais en Angleterre, le premier lieu où je me rends, c'est à Smithville. Premièrement, pour voir où John Roger fut brûlé sur le bûcher par la marée sanguinaire, et puis d'aller à Bundlefields où les puritains furent enterrés en dehors des limites de la ville. C'était un signe de rejet. Ils étaient considérés comme Christ crucifié en dehors de la ville. Bundlefield est maintenant dans la ville de Londres. Mais à cette époque, c'était un signe de rejet complet. Lorsque vous allez à Bundlefield, vous voyez les tombes de John Owen. John Owen, des docteurs de divinité. Vous voyez la tombe de John Bunyan, qui a écrit le classique Le Voyage du Pèlerin, et la tombe d'Isaac Watts. Et on a chanté ces cantiques ce soir. Lorsque je regarde cette croix où le prince de gloire mourut, mon plus grand gain je compte comme perdu. Thomas Goodwin et d'autres géants puritains. Plusieurs n'ont même pas de tombe. Ils étaient empilés l'un sur l'autre, mourant dans l'anonymat, dans le rejet, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre. Parce qu'ils étaient prêts à mettre leur vie entière et à jurer alliance et allégeance à sola scriptura. Je vous encourage à être fidèles à des clauses de cessationnisme dans nos confessions de foi, dans nos églises. Restons sur la fondation de la parole de Dieu, que cette parole puisse diriger nos vies, que cette parole dirige notre prédication et notre adoration de Dieu, que cette parole dirige notre communion les uns avec les autres et nos vies quotidiennes, que cette parole de Dieu dirige nos ministères et nos pas, alors que nous dirigeons vers le tombeau, et que la parole de Dieu soit notre seule fondation, fondement. Que cette parole soit celle sur laquelle nous nous tenons pour faire face à notre monde. Prions ensemble. Père Céleste, nous te prions que tu puisses travailler dans nos cœurs, que nous puissions être trouvés fidèles dans nos générations sur cette terre. Dieu, nous désirons faire partie du reste, ceux qui restent fidèles et véritables à ton livre et à ton livre seul. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous donner du discernement et une compréhension aux Écritures que tu nous as données ce soir, de son inhérence, du fait qu'il soit sans faille, de sa suffisance, de son immuabilité, son invisibilité, sa finalité. Dieu, que tu puisses nous rendre puissants dans ta parole, non simplement d'être consacré à ta parole, mais de confesser ta parole, de prêcher ta parole, de proclamer ta parole, de chanter ta parole, de conseiller par ta parole, de suivre ta parole et embraser ses enseignements, parce que c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, un feu dans nos os, c'est l'épée à notre côté. Dieu merci que tu nous as confier un tel trésor pour nous qui sommes pèlerins sur cette terre. Tu nous as confié ta parole écrite, parfaite. C'est en le nom de Jésus-Christ nous prions. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.